nous allons prendre un petit moment de discussion.
Oui, je voulais revenir sur le problème du tri et sur les agents de l'État qui participent à ce tri. Je voulais parler, alors je fais partie d'un comité de soutien des sans-papiers à Poitiers, et depuis 3 ans, quasi systématiquement, on a, les uns et les autres, écouté ce qui se passait devant le juge des libertés ou devant le tribunal administratif. Et là, on n'a pas affaire à des dominés-dominants ou dominants-dominés, on a affaire à des agents dont on voit très bien, d'une certaine manière, qu'ils ont complètement intégré une logique qui est très proche de la xénophobie d'État, car ils ont quand même des marges de manœuvre qu'ils n'utilisent pas. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une intervention du juge Portelli qui parlait de ça et qui montrait qu'en définitive, les juges des libertés, quand on leur demande ou non de prolonger la rétention, la plupart du temps, ils se réfugient dans un juridisme, en tous les cas sur Poitiers, on en a vu plusieurs, puisqu'il y en a eu 3 qu'on a observé, il se réfugie dans un juridisme très pointilleux qui fait que systématiquement, l'assignation à résidence, qui pourrait être une alternative à la prolongation de la rétention, n'est pas donnée. Et quand on regarde le juge administratif, c'est encore plus intéressant, parce que les juges administratifs, en fin de compte, c'est quand même eux qui font le dernier tri, puisque c'est eux qui confirment ou qui infirment l'OQTF ou la PRF, l'obligation à quitter le territoire ou l'arrêté de reconduite à la frontière. Et là également, on voit très bien comment, quand il s'agit par exemple pour un juge administratif auquel on pose la question de savoir si ce monsieur, on peut l'expulser, il est parent d'enfant français, mais on peut quand même l'expulser parce que la préfecture dit « oui, mais il ne s'occupe pas vraiment de son enfant français ». Donc, en définitive, on peut très bien l'expulser, et ce n'est pas tout à fait contradictoire, et on va entendre le rapporteur public qui va dire, par exemple, que ce n'est pas contradictoire avec la Convention européenne des droits de l'enfant. Donc, je vois quand même que, sur le juge administratif, comme dans le juge des libertés, cette xénophobie d'État, elle est largement, à mon avis, admise, quoi.
Oui, je veux juste répondre un mot et puis ça me permettra de rebondir aussi sur ce qui a été dit par Jérôme Baluy sur cette question-là. Je pense que c'est une question très importante, la question, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la question de l'intervention des juridictions. On a quand même des statistiques. Alors, je ne remets pas en cause, je ne connais pas la situation de Poitiers, mais on a des statistiques au niveau national. On sait par exemple que, alors de mémoire, je crois que c'est les chiffres pour 2007, hein. Mais 2007, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai pas les derniers chiffres 2008. Je ne sais pas s'ils sont mentionnés de cette façon-là. Il y a 36% des mesures de reconduite à la frontière qui sont annulées du fait de l'intervention du juge administratif ou du juge des libertés. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez substantiel. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre point de divergence que j'ai avec Jérôme sur la question de la comparaison avec Vichy. C'est que moi, je suis d'accord avec lui pour dire qu'il faut prendre, disons, la mesure de la spécificité de la situation actuelle et pas tout ramener systématiquement à Vichy. Mais pour cette raison-là, précisément, c'est que l'une des contradictions que je faisais... que je soulignais tout à l'heure, c'est précisément qu'il y a cette possibilité, et si on prend le statut des étrangers sous Vichy, où justement, il y a absolument... C'est une période où les juridictions ne jouaient absolument pas ce rôle-là. Et donc, je pense que 36%, ce n'est pas négligeable, et que d'ailleurs, le pouvoir le sait très bien, puisqu'il a essayé de fusionner l'intervention des juridictions et de neutraliser justement cette intervention. C'est précisément parce qu'il a tout à fait conscience que ça reste... Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a une contagion de la logique du tri, mais que ça reste malgré tout un obstacle, encore aujourd'hui, même si c'est un obstacle qui tend à reculer, à la politique d'éloignement massif, d'industrialisation de l'éloignement, on va dire, qu'essaye de mettre en place le gouvernement. Et je pense que la différence qu'on a, en tout cas, sur cette question de la xénophobie d'État, et d'ailleurs... Je remercie Jérôme parce que je pense que c'était très clair de ce point de vue-là, c'est que c'est la différence de niveau, c'est-à-dire où il se place... Enfin, je pense que quand on parle de xénophobie, on se place au niveau des discours. Et effectivement, au niveau des discours, c'est effrayant. Et je suis d'accord avec Jérôme pour souligner que si on compare, pour le coup, avec les discours de l'entre-deux-guerres au début du siècle, on a une xénophobie d'État qui court quasiment sur tout le XXe siècle. Mise entre parenthèses, la période des Trente Glorieuses où l'immigration n'est pas constituée comme un problème public et que ça reste un problème administratif. Mais sinon, on a une xénophobie d'État du point de vue des discours. Mais je pense que justement, la différence, c'est de s'intéresser aux pratiques. Et quand on s'intéresse aux pratiques, puisque vous êtes membre d'un collectif, la plupart des gens qui sont membres de collectifs savent que dans la plupart des préfectures, et selon le rapport de force du collectif, on arrive à obtenir, c'est de plus en plus difficile, et c'est un rapport de force qui est à construire, et il faut mobiliser, mais on arrive à obtenir des régularisations. Et donc s'il y a des possibilités, et le pouvoir d'ailleurs, les pouvoirs publics ne communiquent absolument pas sur ces régularisations, parce que c'est aussi dans l'intérêt du pouvoir d'entretenir cette idée de... Et juste pour terminer là-dessus, c'est aussi une différence de chronologie, c'est que moi je pense que c'est effectivement... Et il ne s'agit pas de minimiser ça, extrêmement grave, la création du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. Maintenant, est-ce que ça marque une inflexion dans la période récente? Là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que l'inflexion, c'est quelque chose qui n'est pas une loi, qui n'est pas une circulaire, qui a donné lieu à une communication politique. C'est l'idée de mettre en concurrence, à partir de septembre 2003, mettre en concurrence toutes les préfectures sur un seul critère, le nombre de mesures de reconduite effectivement réalisées. Et à partir de là, comme je disais tout à l'heure, on a des enfants en rétention, on a de la préfecture qui va chercher les enfants à l'école, on a des arrestations pièges, on a, etc., toutes ces choses-là qui, dans la période précédente, étaient extrêmement minoritaires. Mais là, encore une fois, c'est une manière de regarder les pratiques et pas les discours.
Moi, j'ai une petite question sur les imams et l'islam. Alors, ça fait un moment que je me posais cette question. S'il était réellement aujourd'hui logique de dire « nous avons un islam de France et pas un islam en France ». Moi, je fais la distinction. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, cette question de l'islam et en tout cas la formation des imams et tout ça, ça devient un peu sérieux. Et surtout le problème, en tout cas de la religion musulmane, apparemment, qui pose un problème dans la société. Et moi, je partage un peu cet avis de Stora qui dit « ce serait idiot de dire aux Français que nous avons un rapport très récent avec l'islam ». Or, on remonte très loin dans l'histoire. Au IIe siècle, il y avait bien un rapport très très fort avec l'islam. La colonisation prouve qu'il y avait un rapport avec ces populations derrière la Méditerranée, et pas que les musulmans, parce que les juifs d'Algérie déjà existaient, donc déjà avec la religion juive. Et puis, je crois que la construction de la mosquée de Paris est un indicateur aussi pour dire que non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous, concrètement et honnêtement, vous dites aujourd'hui que c'est un islam de France et non pas un islam en France ?
Alors, d'abord, je suis d'accord avec vous sur le fait que les relations entre la France et puis la religion musulmane ou les musulmans, elle est très ancienne. Et notamment, ne serait-ce que parce qu'effectivement, pendant la période coloniale, par exemple en Algérie, la laïcité n'a pas été appliquée et qu'on le sait peu, mais que les imams étaient des fonctionnaires en Algérie coloniale. Ils étaient rémunérés par l'État, pris en charge par l'État français. Sur la question d'islam de France, islam en France, je ne me positionnerai pas parce que pour moi, dans les deux cas, on parle de catégorie d'État, c'est-à-dire on parle de discours qui ont été diffusés par les ministres de l'Intérieur. En fait, on voit très bien, on parle d'islam en France à peu près jusqu'à Jean-Louis Debré, et puis on va se mettre à parler d'islam de France un peu sous Chevènement et véritablement sous Nicolas Sarkozy quand il est à l'Intérieur. Et ça correspond finalement à des évolutions des perceptions du ministre de l'Intérieur sur la manière dont il faudrait gérer ce culte-là. Donc moi, je n'ai pas d'avis. Ça, ce qui m'intéresse, c'est comment ces expressions, elles se développent et elles circulent. Justement, toute la difficulté, je trouve, quand on écrit sur cette question, c'est d'arriver à le faire en n'employant pas les expressions islam de France, islam en France. Alors, je ne sais pas, moi, je trouve... Ah bon ? Eh ben alors, c'est un lapsus, alors, parce que... Non, je vous disais, oui, un islam à la française, mais entre guillemets, c'est-à-dire, on doit faire exister... C'est au nom de la nécessité de faire exister un islam à la française qu'intervient le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc c'est au nom de ça qu'est justifiée toute l'intervention. Donc ce serait compliqué d'étudier ça et soi-même de se positionner en disant j'en sais rien et je vais vous dire honnêtement, je m'en fiche en fait. Voilà, mais ça m'intéresse d'étudier comment ça fonctionne.
Oui, bonjour. Deux questions. Une question de militant sur la première intervention.
Vous avez un petit peu abordé le truc sur le fait qu'il y aurait des formes de résistance ou en tout cas de contestation des fonctionnaires par rapport à la politique du chiffre, l'éloignement des sans-papiers, des immigrés, etc. Est-ce que vous pourriez développer sur ce truc-là et plus largement sur comment... Bon, voilà, c'est vraiment une question de militant, mais comment, à partir de votre analyse, essayer d'avancer sur créer un rapport de force avec des points d'appui dans ces institutions-là ? Parce que moi, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a une mobilisation externe, mais il y a aussi une mobilisation interne à tenter, au moins. Et après, peut-être que d'autres pourront intervenir sur le terrain pratique, parce que ce n'est pas des mobilisations dans lesquelles moi, je suis très impliqué, mais ça m'intéresse. Sachant que, voilà, est-ce qu'il y a par exemple des formes de désobéissance civile comme il y a pu avoir chez les profs et qui ont fait pas mal de bruit et qui d'ailleurs, semble-t-il, ont pas mal gêné le pouvoir puisqu'ils ont été très, très sévèrement réprimés. Et la deuxième question, c'est sur la deuxième intervention, quelle responsabilité, on va dire, de la gauche de gouvernement, je ne sais pas si vous reprendrez ce truc-là, sur la mise en place de cette xénophobie d'État, puisque que ce soit sous Mitterrand et encore plus sous Jospin, avec par exemple les lois Chevènement, ce genre de choses, et toute la construction européenne, la mise en place de cette Europe forteresse anti-immigrée, quelle responsabilité là-dedans, en lien ou pas aussi avec historiquement une partie du mouvement ouvrier clairement anti-immigré, quoi. Voilà. Merci.
Bon, alors je vais répondre à la première question et puis je laisserai Jérôme répondre à la deuxième. Sur la question des résistances, effectivement, j'ai pas eu le temps de développer, mais moi ce qui m'a frappé, et d'ailleurs c'est passé finalement relativement inaperçu, c'est que moi, j'avais étudié les services de préfecture de contrôle de l'immigration de 45 à 75. Il y a assez peu de mouvements sociaux, mouvements de grève. À l'époque, quand on fait grève, c'est pour soutenir son chef de bureau parce qu'il est muté ou des choses comme ça. Et là, en 2005, en fait, ce qui est très intéressant, et ce n'est pas un hasard si ça arrive en 2005, on a pour la première fois, à l'OFPRA, à la commission des recours, à la préfecture de police de Paris, des mouvements qui se mobilisent et qui mettent en avant à la fois les conditions de travail des agents, très clairement contre la politique du chiffre, non pas celle des mesures d'éloignement, mais la politique du chiffre appliquée, en gros, la managérialisation des pratiques administratives, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres administrations, mais qui font le lien entre, justement, cette politique, la dégradation des conditions de travail, d'une part, et puis, d'autre part, les conditions d'accueil des étrangers. Et donc voilà, en fait, c'est essentiellement ça. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme de résistance. Alors, pour répondre à votre question, c'est aussi... Tout ça est socialement situé. Il n'y a pas de forme de désobéissance civile comme on voit chez les enseignants, mais parce qu'il faut savoir que les agents de préfecture, c'est pas les mêmes propriétés sociales que les enseignants. Alors il y a des formes de résistance qui sont moins politisées ou en tout cas moins institutionnelles. C'est l'absentéisme, le fait de se porter malade quand on n'en peut plus justement de devoir appliquer et que on multiplie les arrêts maladie. C'est une manière de protester. Il peut y avoir l'alcoolisme, il y a beaucoup de formes de résistance qui sont pas de la désobéissance civile comme on connaît chez les enseignants, mais qui sont, disons, à mon avis, aussi des formes de résistance moins visibles que les mobilisations dont je parlais en 2005. Alors ensuite, comment, quand on est militant, s'appuyer ? Eh bien, moi, je préconise depuis plusieurs temps, en tout cas, depuis que j'ai eu cette expérience, en tout cas, je pense que c'est la responsabilité des associations, des collectifs, de faire pression sur les syndicats, parce que des centrales syndicales, parce que ceux qui ont une vision et qui ont un pied dans ces institutions-là et qui peuvent jouer les relais justement pour ces catégories-là, c'est précisément les confédérations syndicales qui ont à un moment donné, d'ailleurs en 2005, parce qu'elles ont senti qu'il y avait un coup à jouer, constituer des confédérations, des fédérations d'agents en lien avec les services d'immigration, et en fait elles les ont laissés mourir. Et pourquoi ? Parce que justement ça les mettait en contradiction avec leur base militante ou leur base syndicale intervenant dans d'autres secteurs d'activité. Et donc là c'est vraiment la responsabilité, à mon avis, des associations, des partis politiques et du mouvement syndical, que de créer ce rapport de force là aussi, hein, pour discuter en dehors, mais je le dirais même plus généralement, hein, en dehors des sphères habituelles de gens qui sont convaincus. Et ça vaut aussi pour les universitaires. Moi, je pense qu'on a un vrai travail à faire, les universitaires qui travaillent sur les questions d'immigration. Pourquoi depuis 25 ans, la plupart des universitaires, ça, c'est quelque chose que disait aussi Gérard Noiriel, hein, disent un certain nombre de choses sur l'histoire de l'immigration, sur la politique d'immigration, et que encore on a un Front National qui continue de grossir, et que de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun effet du savoir universitaire sur l'évolution des politiques publiques. C'est pas vrai du savoir qui s'est constitué en matière de sociologie de l'éducation, par exemple, où on voit que très clairement ça a eu des impacts sur la politique scolaire. Pourquoi en matière d'immigration ça marche pas ? Il faut réfléchir aussi à ça, et je pense que collectivement, enfin en tout cas sur la façon de fonctionner.
Alors, pardon. Dans votre question, il y avait deux dimensions, mais je voudrais les inverser. L'une sur la gauche du gouvernement et l'autre sur la classe ouvrière, le mouvement ouvrier. Je vais commencer par la première, s'agissant donc de ce que pourrait être une responsabilité du mouvement ouvrier dans la genèse de ce nationalisme xénophobe réapparaissant à la fin du XXe siècle. C'est une vision qui a été popularisée, qui s'est diffusée à la fin des années 80, début des années 90, au sujet de l'interprétation en sociologie électorale de la montée du Front National. C'est à partir de là où cette idée d'une origine ouvrière du nationalisme et de la xénophobie commence à se diffuser dans le champ académique et dans l'espace public. C'est une idée qui est sociologiquement très contestable. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'analyse, mais je vous renvoie à un excellent ouvrage qui, je trouve, a traité la question de manière définitive. C'est celui d'Annie Kollewald, Le populisme du Front National, un dangereux malentendu, qui montre en particulier, qui déconstruit d'abord la façon dont cette théorie des vases communicants en particulier, l'idée que, au fond, l'électorat du FN proviendrait du déclin de l'électorat du Parti communiste, et qu'on aurait une sorte de phénomène de vase communicant propre aux banlieues et aux villes ouvrières, passant du communisme au nationalisme. Elle déconstruit d'abord la façon dont cette interprétation des choses a été produite dans le champ académique et en particulier dans un certain nombre d'institutions prestigieuses et proches des élites dirigeantes, Sciences Po Paris, le CEVIPOF, pour ne pas les citer, mais pas seulement, ça va au-delà. L'ensemble des travaux sur le populisme a fortement contribué à la diffusion de cette thèse, qui est finalement très confortable pour les élites dirigeantes, puisque ça renvoie au peuple, ça renvoie à la classe ouvrière, la responsabilité finalement de la transformation du cours de l'histoire. Elle analyse ensuite, elle rentre dans une sociologie électorale de l'électorat du Front National, et elle montre ce que l'on sait tous, à savoir qu'il y a une légère surreprésentation, quelle que soit la catégorie ouvrière qu'on prenne en compte. On peut discuter sur ce que c'est que l'ouvrier en sociologie assez longuement, mais quelle que soit la catégorisation qu'on adopte, on a une légère surreprésentation de la classe ouvrière dans cet électorat du Front National, qui par ailleurs est ventilé sur l'ensemble des catégories sociales de la population, est très présent aujourd'hui sur les classes bourgeoises et sur les élites dirigeantes. Donc, de ce point de vue-là, la thèse ne tient pas. Et moi, j'adhère d'autant plus à ce discours sociologique que, d'un autre point de vue, qui est le mien, celui de la sociologie des politiques publiques, en travaillant ces dernières années, effectivement, j'ai vu apparaître comme quelque chose de massif à mes yeux, parce que je suis notamment informé par ce qu'on appelle la théorie des politiques publiques, j'ai vu apparaître l'écart chronologique considérable, justement, entre les premières politiques anti-migratoires qui se construisent dans les années 60 et 70 et la réémergence des partis d'extrême droite dits populistes, aussi bien en France que dans les autres pays. Et vous comprenez bien que on pouvait peut-être avoir une ambiguïté sur l'origine sociologique des partis populistes ou nationalistes, mais en ce qui concerne l'origine des politiques publiques, il n'y a aucun risque d'erreur. Ce n'est pas le peuple qui fait les décisions législatives, réglementaires, financières. Ce n'est pas le peuple qui passe au journal de 20 heures tous les soirs. Ce n'est pas celui-là qui écrit non plus les discours politiques, les programmes, etc. C'est, d'un point de vue de politique publique, l'origine élitaire de la transformation du champ politique dans ce domaine au cours des années 60-70 ne laisse place à aucune espèce de doute. Autrement dit, la responsabilité ouvrière me paraît tout à fait marginale, secondaire. Alors après, donc, comme dans toute population, si pendant des décennies et des décennies vous avez la répétition de la construction de l'étranger comme problème, risque, menace à travers tous les actes, pas seulement les discours, contrairement à ce que dit Alexis, je pointe essentiellement des actes, c'est-à-dire justement des lois, des circulaires, des règlements, des dispositifs administratifs qui sont des discours, je dirais, à leur façon et qui désignent la problématique de l'étranger, de l'altérité, comme dangereuse ou déstabilisante pour la société. L'autre partie, la responsabilité de la gauche du gouvernement, là, effectivement, là, il y a encore beaucoup à faire. Et malheureusement, il y a très peu de chercheurs qui se sont intéressés à cette dimension-là du phénomène historique. Pourquoi ? Bah parce que beaucoup de chercheurs sont de gauche et sont assez proches de cette gauche du gouvernement. Hein. Et donc, il faut rentrer dans une critique de ceux dont on est proche, ami, ou dont on est rentré dans les réseaux politiques, ça devient extrêmement difficile. Vous voyez la situation de Patrick Veil, par exemple, qui était au cabinet des gouvernements socialistes en 81, qui est un de celui qui a posé la thèse, justement, d'un grand Big Bang en 74, qui a accompagné la politique de chevènement en 98, qui a quand même produit un rapport aboutissant à la création de l'asile territorial avec 98% de rejet de la demande d'asile algérienne hein, après une guerre civile qui a fait près de 100 000 morts dans le pays, qui a accompagné Ségolène Royal dans ses dernières propositions en 2007, qui ne contestait pas du tout la création du ministère, qui en changeait seulement l'intitulé. Bah, est évident qu'en tant que sociologue, lorsque Patrick doit faire la critique de la gauche du gouvernement, il va être un petit peu embarrassé, sauf à rentrer dans une autocritique de type marxiste qui est très très loin de ses formes de pensée. Donc la responsabilité de la gauche du gouvernement est complète. Depuis les petites phrases de Fabius en 83, le Front National apporte les mauvaises réponses aux bonnes questions. Celle de Rocard en 89, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les premières politiques Rocard-Cresson qui interdisent aux demandeurs d'asile de travailler alors qu'ils sont en situation régulière et qu'ils les placent en clandestinité économique. La politique de chevènement sur l'asile territorial et sur d'autres aspects aussi. Les positions de la candidate royale. Voilà. Et on a la même chose en Grande-Bretagne, la politique de Tony Blair. On est arrivé à un point de retournement et d'inversion de la gauche et de la droite où c'était le parti Tories qui disait à Tony Blair « Il ne faut pas taper trop fort, il faut quand même protéger un peu les droits de l'homme et faire attention à la Convention internationale des droits de l'homme ». Quand on en a à ce niveau de renversement, on comprend bien effectivement que la gauche du gouvernement s'est complètement enrôlée dans la construction du monde qui est aussi celle de la droite.
Merci. Il faudrait qu'on en reste là, en fait. Nous sommes relativement en retard. Donc, merci pour cette discussion, ces interventions. Merci.